VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 11h en temps universel. Bonjour, bienvenue. En France, deux forcenés sont morts dans l'assaut policier mené tôt ce matin à Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris. Dans le cadre de l'enquête sur les attentats de vendredi, l'opération vient juste de se terminer. Parmi les morts, une femme qui s'est faite exploser. C'est une première en France. 7 personnes ont été arrêtées, dont 3 étaient dans l'appartement. La France, la Russie, les États-Unis et la Grande-Bretagne intensifient les bombardements contre les cibles de l'État islamique en Syrie. Mais est-ce la réponse appropriée pour en finir avec la menace terroriste? Certains en doutent. C'est le cas d'Émile Baroudi. Il est journaliste ici à Washington et spécialiste du Moyen-Orient.
Les bombardements qui ont lieu maintenant sont un peu folkloriques. C'est pour mettre les gens à l'aise, pour qu'ils sachent qu'on fait quelque chose. La meilleure serait que le monde musulman s'implique plus profondément dans cette guerre des idées. Il faut que les ulémas modérés soient plus présents sur les télés, dans les prêches des vendredis. Quand l'État islamique dit qu'une attaque, disons les bombardements aériens contre ses bases sont une croisade, il faut que le mufti d'Arabie Saoudite sorte dire non, ce n'est pas vrai. Ce qui est mauvais pour le monde islamique, c'est quelque chose comme Daesh. Il faut que ce soit dit et il faut que ce soit dit plus souvent. Il faut que ce soit dit tout le temps. Il ne faut pas désespérer. En Europe, il faudrait aussi travailler sur diminuer la marginalisation de la jeunesse islamique. C'est un peu comme ce qu'il y a eu aux États-Unis avec les Noirs. Il y a eu un moment où les Noirs étaient un peu déçus, ils ne voulaient pas rentrer dans le système et tout, mais il a fallu beaucoup d'efforts et 20, 30 ans plus tard, les Noirs refont partie de la société américaine.
Émile Baroudi, journaliste spécialiste du Moyen-Orient, au micro d'Éric Manirakiza. Les frappes aériennes menées par la France et la Russie au cours des 72 dernières heures dans le nord de la Russie ont causé la mort de 33 djihadistes du groupe État islamique. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. La Russie et la France ont multiplié les raids contre Raqqa, capitale de facto de l'État islamique en Syrie, après les attentats meurtriers de Paris de vendredi et l'attentat contre un avion russe qui s'est écrasé le 31 octobre dans le Sinaï, en Égypte, tous revendiqués par le groupe djihadiste.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Addis Abeba abrite aujourd'hui des pourparlers de paix entre les rebelles du SPLMN et dans la région du Darfour et le gouvernement soudanais. La médiation de l'Union africaine a confirmé hier l'arrivée des envoyés du gouvernement. Éric Manirakiza.
Les discussions doivent débuter en fin de semaine à Addis Abeba au siège de l'Union africaine. La médiation de cette organisation panafricaine espère aboutir à un cessez-le-feu pour faciliter l'aide humanitaire dans les zones rebelles. La durée des pourparlers n'est pas encore indiquée, malgré l'assurance d'un porte-parole du SPLMN et d'un porte-parole de l'Union africaine. Cependant, les précédentes négociations l'année dernière n'avaient pas donné de résultats. Les rebelles combattent les forces de Khartoum depuis 2011 dans les États du Kordofan du Sud et du Nil Bleu, frontaliers au Soudan du Sud. Ces rencontres à Addis Abeba coïncident avec la tentative de Khartoum pour convaincre le SPLMN et les rebelles du Darfour de rejoindre le dialogue national souhaité par le président Omar el-Béchir en vue de régler les problèmes économiques et insurrectionnels qui sapent la stabilité du Soudan.
Nigeria, plus de 30 morts dans l'attentat à Yola. Une bombe a explosé dans la foule en plein centre-ville dans le nord-est du Nigeria, ont indiqué la Croix-Rouge et l'Agence nationale de secours. Nous avons décompté jusqu'à présent 32 morts et environ 80 blessés, a déclaré le coordonnateur de l'agence pour Yola, Saad Bello. La Croix-Rouge a donné un bilan légèrement inférieur de 31 morts et 72 blessés. Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a été convoqué par la justice française suite à une plainte de Michel Gbagbo, le fils de l'ex-président ivoirien. Monsieur Soro a toutefois démenti Idi Sango.
D'après des sources judiciaires françaises, la juge d'instruction Sabine Kéris avait convoqué M. Guillaume Soro le 24 novembre suite à la plainte de Michel Gbagbo pour enlèvement, séquestration et traitement dégradant et inhumain. M. Soro a démenti auprès de l'AFP avoir reçu une convocation. Il a précisé que le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire ne peut répondre à une convocation qui ne lui est pas parvenue. Il ajoute que les ministères ivoiriens de la justice et des affaires étrangères n'ont jamais jamais été saisi des commissions rogatoires internationales pour qu'il soit entendu dans cette affaire. Accusé de complot, Michel Gbagbo avait été capturé le 11 avril 2011 avec son père Laurent Gbagbo. Il a été remis en liberté provisoire en juillet 2013. Ses citoyens franco-ivoiriens avaient porté plainte en 2012 en France contre Guillaume Soro et les Comzone.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Mali, la scolarisation des filles au cœur de la réunion annuelle de l'initiative des Nations Unies, Girls Education Forum, qui s'est ouvert à Bamako. Madame Maïga Kadidia Babi, ancienne coordonnatrice nationale du projet de la scolarisation des filles au Mali, nous parle des enjeux de la rencontre.
Le développement passe par l'éducation de la femme, parce que la fille, c'est la future femme. Si nous tenons compte vraiment du statut de la femme dans la famille, vraiment du rôle de la femme, sur le plan entretien familial, sur le plan sanitaire, sur le plan éducation, les enfants, qu'ils soient filles ou garçons, passent déjà par la maman d'abord pour pouvoir s'émanciper d'elle si ce sont les garçons à un certain âge. Donc cette maman, si elle n'a pas les compétences de garçon, elle n'est pas éduquée. C'est-à-dire qu'il faut avoir le minimum, c'est ça qui est extrêmement important. Le mieux, c'est d'avoir l'éducation jusqu'à un certain niveau jusqu'à ce qu'elle termine. Mais vraiment, à défaut de ça, qu'elle ait accès au moins à l'instruction.
Les investissements chinois en Afrique ont chuté de plus de 40% durant le premier semestre. Le ralentissement économique du géant asiatique a entraîné une baisse drastique de sa demande en matières premières. Pour une analyse, Nicolas Pinot a joint Sébastien Lebeldic. Il dirige le site d'information China Africa Info. On l'écoute.
C'est pas une surprise, on s'attendait à une chute brutale de cet ordre-là. Il faut savoir que depuis le début de l'année, on a senti un ralentissement considérable de deux éléments principaux. D'abord, effectivement, ces investissements directs étrangers en Afrique, donc qui concernent la Chine. Il faut savoir qu'essentiellement, ce sont des investissements dans les infrastructures minières et pétrolières. C'est-à-dire que les grandes entreprises d'État chinoises investissaient énormément en Afrique afin de sécuriser leur approvisionnement. Ça veut dire que lorsqu'ils construisaient un puits de pétrole ou qu'ils exploitaient une mine, il y avait autour toute une série d'investissements comme des routes, parfois des écoles, des barrages pour l'électricité. Et donc, ça générait de gros flux d'investissements dans ces pays africains. Et donc, cela a considérablement baissé et c'est lié en fait au deuxième élément de ces statistiques. C'est lié à l'effondrement de la demande chinoise en matières premières qui a chuté, elle, depuis le début de l'année de 43%.
Sébastien Belzic joint donc à Pékin.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
L'armée israélienne a lancé dans la nuit de mardi à mercredi un raid aérien dans la bande de Gaza après un tir de roquette vers le sud d'Israël sans faire de blessés. C'est ce qu'ont indiqué des sources palestiniennes et israéliennes concordantes. Selon des sources de sécurité palestinienne, l'armée israélienne a ciblé deux camps d'entraînement militaires. Le Sénat américain à majorité républicaine a adopté hier deux résolutions annulant les réglementations phares du gouvernement de Barack Obama pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des centrales électriques. Cependant, le président va y opposer son veto. Le vote visait avant tout à officialiser l'hostilité de la majorité républicaine aux initiatives de Barack Obama pour lutter contre le changement climatique, dont les conservateurs contestent le coût économique, notamment dans les régions qui dépendent de l'exploitation du charbon. Et les combats ont repris dans le nord de la Birmanie entre l'armée et les groupes rebelles, contraignant des centaines de civils à fuir moins de deux semaines après les législatives historiques remportées par l'opposante Aung San Suu Kyi. L'armée confirme des combats en cours dans les états de Shan et Kachin, région toujours en proie à des conflits ethniques armés, près de 70 ans après l'indépendance de la Birmanie vis-à-vis de l'Empire britannique. C'était en 1948. Et puis l'information du jour, c'est que deux personnes sont mortes dans l'assaut policier mené tôt ce matin dans le cadre de l'enquête sur les attentats de vendredi en France. Donc, l'opération vient de se terminer. Parmi les morts, une femme qui s'est faite exploser. C'est une première en France. 7 personnes ont été arrêtées, dont 3 étaient dans l'appartement. Et puis, les frappes aériennes menées par la France et la Russie au cours des dernières 72 heures dans le nord de la Syrie ont causé la mort de 33 djihadistes du groupe État islamique, a affirmé aujourd'hui l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. La Russie et la France ont multiplié les raids contre Raqqa, la capitale de facto de l'État islamique en Syrie, après après les attentats meurtriers de Paris de vendredi et l'attentat contre un avion russe qui s'est écrasé le 31 octobre dans le Sinaï égyptien, tous revendiqués par le groupe djihadiste. Merci de nous avoir suivis. Jean-Rocher Billon à ce micro. Prochain journal dans 50 minutes présenté par Henri Francisque. Merci et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.